Voilà, donc on a bien fait de terminer avec ce chant qui nous invite à contempler la croix de Christ, parce que justement je veux faire référence à cette croix, à cette étude ce matin, la croix, symbole ou idole. La croix matériellement ne doit pas devenir une idole, et elle doit rester symbole. Et ce matin, je veux faire la référence, une référence qu'a faite Jésus avec Nicodème. Vous vous souvenez que Nicodème, un soir, vient voir Jésus. Et Jésus fait référence à un événement de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez ce que c'est? Je vous laisse comme ça réfléchir un petit peu, puis après je vais vous le dire. Et puis vous pourrez vous noter. Mais dans Jean chapitre 3 et versets 14 et 15, Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et il fait référence, et Nicodème avec la femme samaritaine n'a jamais fait référence à un événement de l'Ancien Testament, elle ne connaissait pas. Mais Nicodème connaissait l'Ancien Testament, hein, et Jésus tient compte de cela quand il parle. Il fait référence, il dit, mais tu te souviens, dans l'Ancien Testament, quand Moïse était obligé de mettre un serpent d'airain sur une perche au milieu du camp, et cela pour sauver leur vie, hein, parce que Dieu avait envoyé des serpents brûlants, hein, venimeux, et qui était en train de causer la mort de pas mal de personnes dans le peuple d'Israël, parmi le peuple d'Israël. Dieu ne fait pas ce genre de choses rien que pour sans raison. Et si nous lisons dans Nombre 21, nous allons voir que la raison pour laquelle il a fait cela, c'est parce que les gens étaient arrivés au point où ils disent à Moïse, ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils disent notre âme, c'est pas seulement notre corps, notre âme, c'est-à-dire nous, ça y est, on en a jusque-là avec cette manne, tous les jours, aller ramasser la manne. Bon, c'était seulement 6 jours par semaine, mais tous les jours, de la manne. De la manne. Il y avait plusieurs manières de la préparer, mais quand même, il commençait à en avoir assez. Pourtant, cette manne, eh bien, c'était un miracle quotidien. C'est-à-dire que c'était pas normal que cette nourriture tombe chaque jour. Mais pourquoi cette expression que le peuple de Dieu puisse arriver au point, nous dit. On est dégoûté, notre âme est dégoûtée de cette nourriture. Parfois, je me demande s'il n'y a pas des chrétiens dans les églises qui commencent à se lasser même de la prédication de la parole. Parfois, quand on est enfant de chrétien, on a grandi dans l'église et puis on se dit, ces histoires, je les connais, je les entends depuis que j'étais comme ça. Et c'est toujours la même chose, au point ils n'écoutent plus, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne les connaissent pas. Mais bon, ça c'est autre chose, on peut arriver à ce point. Mais pourquoi arriver à ce point? Comment est-ce que ce peuple d'Israël est arrivé à ce point? Et si vous regardez avec moi dans Exode chapitre 12, eh bien, nous allons voir que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, finalement, ils ne sont pas partis tout seuls. Exode chapitre 12 et verset 38. Dit une multitude. Verset 37 dit les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude, verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis, des bœufs, et ainsi de suite. Mais remarquez, il nous dit, Hein, on vient de vivre les 10 plaies. L'Égypte, il y avait les Égyptiens, mais il y a tous les étrangers qui sont là parce que c'était un royaume puissant. Il y avait toutes sortes d'autres gens qui sont là pour toutes sortes de raisons. Mais quand ils ont vu après les 10 plaies, ils ont dit, mais ces gens-là, c'est les gagnants. Et comme vous savez, il y a toujours les gagnants, il y a toujours du monde derrière eux. Hein? Des équipes, j'étais sur Paris, et il y avait des gens qui étaient pour l'équipe de Marseille. Pourtant, ils habitaient Paris. Mais quand on a une équipe qui est gagnante, on veut s'y rattacher. Et là, il y a plein de monde qui dit, ça, la chance est avec eux. Leur Dieu est un Dieu puissant. Leur Dieu, il pourvoit tout. Eh bien, on se joint. C'était pas qu'ils étaient attachés à Dieu, mais ils étaient attachés à l'abondance, la provision, la puissance et tout cela. Et vous savez, même dans les églises, hein, si on arrive à faire des manifestations de puissance, de miracles et tout ça, ça attire du monde aussi. Hein, il y a toujours ce genre de monde qui vient pour cela. Même Jésus, autour de lui, il y avait des multitudes de gens qui n'étaient pas là pour lui, ni pour son enseignement, mais pour les miettes qui tombaient de sa table. Mais ici, on a tout ce il nous dit, des gens de toutes sortes, de toutes espèces, s'intègrent au peuple de Dieu. Et bien sûr, ces gens, ils viennent avec leurs idées, leurs pensées, leurs passions. Et ils avaient déjà créé des problèmes, hein, dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, donc c'est bien avant l'expérience du serpent sur la perche. En Nombre chapitre 11, il nous parle justement de ce ramassis de gens qui étaient parmi le peuple. Nombre chapitre 11, verset 4. Il dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, et puis de l'ail et des os. Il dit, toutes ces bonnes choses, oh, on avait ça en Égypte, ça poussait tout seul. Et puis, oh, c'était bien, et puis c'était gratuit, il y avait tout ce qu'on voulait. Mais ça a commencé avec qui? Avec le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu. Et eux commençaient à se plaindre, parce que eux, c'était pas Dieu qui les attirait, c'était sa capacité de pourvoir. Mais là, ils sont un peu déçus, parce que c'est tout ce qu'ils pourvoient, c'est la manne, et encore de la manne, et demain de la manne, et après-demain de la manne. Et dit, ça commence à manquer, hein, les concombres et les melons et toutes ces autres choses. Alors ils commencent à se plaindre, et leur murmure commence à passer dans le peuple de Dieu. Et petit à petit, le peuple de Dieu commence à penser comme les gens, le ramassis qui se trouve au milieu d'eux. Et c'est là où je veux commencer à tirer ma première leçon, tirer un premier principe, et un principe que les enfants d'Israël n'ont jamais vraiment bien compris. Et peut-être pas seulement les enfants d'Israël, mais même le peuple de Dieu. C'est que, en tant que chrétien, même souvent, on a cette idée que si nous dominons sur une chose, eh bien, nous n'avons pas à craindre la chose. Eux se disaient, il y a ces étrangers qui sont parmi nous, il y a ce ramassis de gens qui ne sont pas vraiment croyants, mais bon, ils sont une minorité, c'est pas grave. Ah oui, mais la minorité a pu les influencer au point de se plaindre devant Dieu. En Juge chapitre 2 et les versets 1 à 5, je ne vais pas les lire là, mais Juge chapitre 5, il y a le prophète, le juge qui vient parler au peuple d'Israël et dit, vous savez ces gens-là que je vous ai dit de chasser, vous ne les avez pas chassés, eh bien ils seront des épines dans vos côtés. Vous allez souffrir parce que vous les gardez. Bien sûr que vous les avez mis sous un tribut, ils vous payent quelque chose, vous dominez sur eux, mais vous allez le regretter. Un autre exemple, c'est Salomon. Hein. Salomon, avec toute sa sagesse, avec cette attitude qu'il avait devant Dieu, ça a tellement plu à Dieu. Mais il s'est dit, oui, bon, je vais prendre des épouses. Mais bon, hein, c'est pas elles qui vont commander, hein, c'est moi, je suis le roi. Et puis il prend une épouse, et puis après il prend l'autre, et puis après il veut plaire à celle-ci, il veut plaire à celle-là, et tout ça. Tu sais, moi, j'ai mes petits dieux de mon pays, là, ça me manque, hein, j'aimerais bien voir, tu me fais un petit quelque chose, là, pour, comme ça je peux adorer mon Dieu. Puis après, un jour, il dit, chérie, tu veux pas venir avec moi? J'aime pas être toute seule. Et puis, petit à petit, et à la fin de quelques années, eh bien, Salomon, eh bien, il s'est trouvé bien loin de Dieu. Et tellement, pourquoi? Eh bien, ces petites choses qui sont dans sa vie commencent à avoir de l'influence. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et parfois, il y a des choses que nous excusons dans nos vies. On dit, oh, c'est pas grave, c'est un petit péché, c'est un petit défaut, c'est un petit ceci. Oh, je fais pas ça souvent, c'est de temps en temps. Méfiez-vous de ces petits-là. Hein, si c'était gros, vous n'aurez rien à craindre parce que vous feriez attention. Mais parce que c'est petit, oh non, j'arrive à le contrôler. Oui, mais la question, c'est que de temps en temps, il m'arrive d'être dans la déprime, d'être découragé. Et là, je ne suis pas fort et je ne domine pas. Et quand je suis faible, c'est alors que celui qui est faible, eh bien, tout d'un coup, il a des idées. Et c'est ces petites choses que je tolère dans ma vie, eh bien, ce sont des choses qui, un jour, tout d'un coup, surgissent. Prend le dessus, m'influence et me dit, mais comment est-ce que je suis arrivé à ce point-là? Comment est-ce que j'ai pu dire cela? Comment est-ce que j'ai pu penser cela? Mais c'est parce qu'il y avait des petites choses que j'ai gardées dans ma vie. Vous savez, on ne peut rien pour les cailloux qui sont dans le chemin. Mais ne tolérez pas les petites pierres qui sont dans les chaussures. Parce que ça va fatiguer. Hein? Il y a des gens, ils parlent, il faut être tolérant. Tolérant, c'est un mot qui passe partout et qui ne veut rien dire. Oui, il y a des ronces de chaque côté du chemin, il y a des cailloux, il y a le soleil qui tape, tout ça. Mais c'est la bonne voie, c'est le chemin qui mène au Père. Mais il dit, mais ne supporte pas des petits cailloux dans la chaussure. Arrête-toi, enlève la chaussure. Enlève le petit caillou, remets la chaussure et reprends la route. On le fait, hein, c'est un principe qu'on connaît. Hein. Mais pourquoi pas dans notre vie chrétienne? Les enfants d'Israël ont dit à ces gens-là, « Oui, venez avec nous, il n'y a pas de problème, il y a de la place, notre Dieu est un grand Dieu. » Et oui, oui. Il est arrivé, on revient dans ce passage de Nombre 21, là où les enfants d'Israël s'étaient pleins de... Hein, là, c'est le peuple d'Israël qui se plaint de leur nourriture, hein, leur âme, il dit, notre âme, eh bien, est dégoûtée de cette misérable nourriture. Mais c'était venu après un événement. C'est toujours bien de prendre les passages, les mettre dans leur contexte. Et ils s'étaient présentés à la frontière d'Édom. Et le roi d'Édom, il a dit, non, non, vous ne passez pas. Et même il est venu avec son armée et il a pris quelques enfants d'Israël comme prisonniers. Tellement il n'était pas content, il ne voulait pas qu'ils traversent son pays. Et Dieu dit, d'accord. Et alors, ils doivent faire un grand détour. Faire un détour, on est déjà fatigué, les enfants, les moutons, tout ça. Et puis maintenant, on va faire un grand détour. Alors déjà, ils sont... découragés, ils sont fatigués. Et quand ils sont fatigués, c'est à ce moment-là que sortent les pensées. Notre âme est dégoûtée de cette nourriture. Vous voyez, l'état psychique, on est affaibli psychiquement. Et puis après, à ce moment-là, des choses qui sont cachées dans nos cœurs commencent à apparaître. Et on les prononce, et on ose le dire. Et on ose se plaindre, et dans ce passage de Nombre 21, ils se plaignent et de Aaron et de Moïse. Et ils disent, pourquoi vous n'avez pas laissé où on était? En Égypte, on était quand même bien. Ils ont quand même oublié des choses. Parce que quand ils étaient là-bas, Dieu les avait entendus crier. Mais là, ils ont oublié cela. Hein? Vous savez, parce que parfois, il y a des choses qu'on tolère, des petites pensées qu'on cache. Et quand je suis bien, quand je suis à l'église, quand je suis avec les chrétiens, quand je suis, il y a les activités, tout se passe bien, eh bien, les pensées qui sont cachées au fond de mon cœur, mais elles ne surgissent pas. Hein, je domine sur elles. Oui, mais il suffit que je passe un moment, et on en a tous, hein. Sinon ça fait, vous n'êtes pas vieux, hein, si vous n'avez pas eu de moment de déprime. Et bien, pensez à ce temps-là, on est faible. Hein? Et puis là, il y a des choses qui montent dans le cœur, dans la pensée. Et si c'est dans la pensée, ça sort de la bouche, hein, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et alors, nous devons nous méfier de ces petites pensées, ces petites amertumes, ces petites pensées qu'on a gardées. Oui, non, c'était pas juste ça. Mais bon, tant pis, je dirai rien. Oui, mais c'est resté là, tu n'as pas réglé le problème. Eh bien, il va ressurgir un jour. Parce qu'il va s'associer à un autre problème, et puis s'associera à un autre, et puis tout d'un coup, et puis les gens qui regardent disent, mais ça vient d'où? Eh oui, mais c'est là depuis un bout de temps. Méfions-nous, hein, c'est bien de venir à la croix et de dire oui, je veux être sauvé, tout ça, alléluia, je suis sauvé. Oui, mais en fait, ce passage de Nombre 21 va nous enseigner de revenir régulièrement pour se purger même des petites choses qui existent dans notre vie. Les grands péchés, bien sûr. Il y a peut-être pas un seul ici qui a tué quelqu'un. Et peut-être pas quelqu'un ici qui a volé une banque. Et oui, mais les petites choses, les petites pensées qu'on a pu avoir, et des choses, des pensées qu'on a pu avoir contre des serviteurs de Dieu, où parfois on a dit, mais Dieu, je commence à en avoir assez, tu n'interviens pas, c'est trop dur, moi je lâche, je décroche, je ne peux plus. Ces pensées sont là, mais elles sont venues d'où? C'est parce qu'elles étaient là, hein. C'est parce que c'était au fond, c'est monté. Hein, c'est quand vous avez déjà vu les flaques d'eau, après une pluie, après 2-3 jours, l'eau a l'air limpide. Mais il suffit que quelqu'un passe dedans avec une bicyclette, tout d'un coup, cette boue-là vient d'où? Hein, et on est étonné nous-mêmes. Vous savez que c'était dans le jardin d'Éden, il y a Ève qui se trouve dans un milieu parfait. Et on n'a jamais connu quelque chose d'aussi beau que ce qu'Ève a connu. Mais là, dans le jardin, eh bien, tout d'un coup, Satan est incarné. Il se revêt d'un corps, du corps d'un serpent. Apparemment, le serpent avait des bonnes relations avec Ève. Et donc, Satan va se cacher dans ce serpent, et Ève peut-être ne va pas se rendre compte tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il commence à créer des pensées dans le cœur d'Ève. Et elle commence à se dire, « Ah, mais c'est vrai !» Dieu nous a créés inférieurs, on n'a pas la connaissance du bien et du mal comme lui. Et il nous a privés de quelque chose, du mécontentement. Cette pensée commence à se développer. Et après, elle commence à se dire, oui, mais c'est vrai, hein, si j'avais ça, hein, on serait comme Dieu. Pourquoi il n'a pas voulu qu'on soit comme Dieu? Il veut nous garder comme ça, inférieurs. Et on commence à avoir des pensées qui se développent, ça se développe dans le cœur. Et Satan, vous savez, il sait comment juste ajouter un petit quelque chose, il sait travailler. La pensée se développe. Et puis après, quand Satan suggère, il dit, mais prends du fruit là et tu l'auras. Hein. Et il vous a interdit cela, mais finalement c'est là, hein, à votre portée, vous n'avez qu'à le prendre, hein. Vas-y, sers-toi. Et alors elle se sert. Et elle mange. Bien sûr, peut-être que même elle est contente d'elle. Elle dit, Adam, viens, regarde ce que j'ai découvert. Prends-en aussi. Tu sais, on ne meurt pas tout de suite. Hein. Je ne suis pas mort, hein. Pas morte. Alors, vas-y. Et lui, il prend aussi. Bon, on en souffre depuis, hein, mais vous savez, il suffisait de semer une pensée dans le cœur. Et si la pensée, je ne règle pas de suite, eh bien, elle mûrit. Elle s'étend. Et elle commence à influer sur toutes mes autres pensées. Et combien d'enfants de Dieu vivent dans l'abattement, vivent dans l'éloignement, vivent dans le découragement. Pourquoi ? C'est pas la faute de la vie. La vie a toujours été ce qu'elle est. C'est pas la faute des chrétiens, c'est pas la faute du pasteur, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a des pensées que j'ai laissées se développer dans mon cœur. Parce qu'il y a d'autres qui restent attachés au Seigneur et ils entendent toutes les choses, et pire que ce que j'entends, et eux marchent avec le Seigneur. Quelle est la différence? Ils sont plus forts que moi? Non. Ils ont une plus grande foi que moi? Non. Écoutez, si avec une petite foi comme un grain de sénévé, on peut déplacer les montagnes, ça devrait suffire, hein, pour la vie. Et vous savez, et si je laisse, même enfant de Dieu, je laisse se développer des choses qui sont péchées, parce que ce n'est pas la gloire de Dieu, si je laisse développer, eh bien j'ai les mêmes conséquences que pour celui qui n'est pas enfant de Dieu. Parce que le jugement du péché, c'est le jugement du péché. C'est le verset qu'on connaît si bien, hein, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez à qui il le disait, Paul, quand il écrivait? Il n'a pas dit aux inconvertis, il l'a dit aux chrétiens de Rome. C'est un verset qui est d'abord pas pour les traités d'évangélisation, c'est d'abord pour le chrétien. Il dit, si tu tolères le péché dans ta vie, si tu permets au péché de se développer dans ta vie, eh bien la conséquence, c'est la séparation, le manque de communion, la perte de communion avec ton Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la communion. Et il y a des chrétiens qui sont plus en communion avec le Seigneur. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que le Seigneur les a oubliés, c'est parce qu'eux ont laissé développer un péché dans leur cœur. Hein ? Il y a un cadavre dans un placard de la maison. Dans 1 Corinthiens 11, vous voyez, on lit toujours ce passage pour la table du Seigneur. Et il parle de ceux qui le prennent indignement. Et il dit, pour cela, certains sont malades et certains sont même morts. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est des chrétiens qui prennent la table du Seigneur. Mais ils le prennent indignement. Leurs pensées sont ailleurs. Mais ils sont en train de faire le rituel. Ou bien la table est devenue une idole. Un rite et rien de plus. Et il dit, tu permets de telles pensées se développer dans ton cœur, et bien bientôt, les choses vont s'éloigner. Dans Hébreux chapitre 10, versets 28 à 31, il parle de ceux qui piétinent le sang de Christ. Et vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains chapitre 8, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Il est en train de parler aux chrétiens. Si j'entretiens des pensées, des passions, j'entretiens des choses de la, que le monde a, qui sont issus du monde, eh bien, je vais ressentir la séparation d'avec Dieu. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout d'un coup il y a une immunité au péché. Parce que si vous le croyez, allez essayer de le vérifier. Hein. Donc c'est pas une question que le chrétien perdrait son salut. Hein. C'est pas une question de salut. Hein. Quand il parle de mort, c'est comme quand il a dit à Adam et Ève, hein, c'est toujours il y a eu une coupure et une rupture. Hein, et après là, je suis détaché du Seigneur, eh bien, le sarment ne peut plus produire de fruits. On revient à Nombre chapitre 21. On a dit que c'était un moment où les enfants d'Israël, ils avaient voulu traverser Édom. Édom a dit non, et Dieu a dit bon, ben tant pis. Ils vont faire un grand tour. Oh, oh. Et puis alors, après, il dit, notre âme est dégoûtée de cette nourriture. Et puis, Aaron et Moïse, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez amené jusqu'ici? Nous, on pensait que c'était un beau pays où coule le lait, le miel. Et vous regardez ça. Je commence à l'avoir assez de cette vie. Hein. Quand je suis venu à Christ, hein, celui qui m'a amené à Christ, il m'a dit que c'est bien la vie chrétienne et tout ça, il n'y a pas de problème. Le loyer est toujours payé, on a toujours du travail, et puis tous les gens nous font des sourires et tout ça. Oh non, c'est pas vrai qu'il n'a pas promis tout cela. Et alors, comme le peuple s'était plaint, Dieu a envoyé des serpents ardents, venimeux. Et les gens mouraient. Et bien sûr, tout d'un coup, vous savez, il n'y a rien comme mourir pour amener la repentance. Et tout d'un coup, le peuple dit « Ah, Moïse, 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 prie Dieu, on a péché, on a péché, on a péché. » Je ne sais pas si c'est de la vraie repentance. Mais en tous les cas, ils ne voulaient pas mourir. Et vous savez ce que Dieu a proposé? Il n'a pas dit « Bon, je chasse tous les serpents, et, bon, je dis un mot, tous meurent. Et vous êtes bons. » C'est intéressant ce que Dieu a fait. Dieu est un Dieu sage. Il a dit, Moïse, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te faire un serpent d'airain, de fonte, et tu vas le hisser au milieu du camp. Comme ça, à la vue de tout le monde, c'est un endroit où tout le monde peut le voir. Et puis tu leur diras, celui qui a été mordu, piqué par un serpent, eh bien, s'il se lève, il se tourne vers cette perche sur laquelle est suspendu le serpent d'airain, s'il regarde dans ce sens, eh bien, sa vie est sauve. Parce que les serpents étaient un jugement. Et si l'on regardait vers ce serpent d'airain, eh bien, le jugement était suspendu. Dieu a remis la responsabilité sur chacun. Après, c'était à chacun de se prendre en charge, de croire et de regarder vers ce serpent d'airain. Le serpent d'airain, il est mort, il est d'airain, il ne peut rien faire, il ne peut absolument rien faire. Et pourtant, ce n'était pas le serpent d'airain qui pouvait faire quelque chose. C'était ce geste, ce regard vers ce serpent d'airain qui sauvait la vie. Et quand Jésus dit à Nicodème, il dit, écoute, tu te souviens, comme le Fils de l'homme doit être élevé, comme le serpent a été élevé. Et comme il fallait regarder vers lui pour être sauvé, ben il va falloir regarder vers le Fils de l'homme suspendu à une croix pour être sauvé aussi. Chacun devra prendre cette initiative, sinon le jugement demeure. Il nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit et la vie éternelle. Il dit, vous vous souvenez bien, vous avez bien compris comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament ? Eh bien, ce sera exactement la même chose, mais par la foi. Et vous savez, le principe demeure. Il dit, oui, vous avez mal agi, vous avez critiqué Moïse et Aaron, les serviteurs de Dieu. Vous avez critiqué la provision de Dieu. Vous avez été dégoûté par ce que Dieu fait pour vous. Vous trouvez ça comme ne satisfaisant pas à vos besoins, vos désirs, vos passions. Et dit, écoutez, vous êtes peut-être le peuple de Dieu. Et Dieu vous a sorti de l'Égypte. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir regarder vers la perche. Et pareillement pour l'enfant de Dieu. C'est vrai, Jésus-Christ est mort sur la croix, j'ai cru, je suis sauvé. Mais dit, ça n'empêche pas que régulièrement, lorsque tu vois apparaître des choses dans ton cœur, tu te rends compte, tu prends conscience de certaines choses qui sont dans ton cœur, dans ta vie, même des petites choses que tu domines aujourd'hui quand tout va bien. Il dit, il faudra aller à la croix et regarder à la croix et demander d'en être délivré. Dans notre vie chrétienne, et c'est tous les jours qu'on regarde à la croix. C'est pas un événement du passé, mais c'est réglé. Maintenant, bon, j'ai poinçonné ma carte, c'est bon pour le ciel, maintenant je continue ma vie. Et puis un jour, quand le Seigneur viendra, il me prendra. Non, non, les enfants d'Israël, c'était pas sortir d'Égypte, c'était une chose. Mais après, c'était une marche par la foi régulière. Donc, dès que je vois quelque chose dans ma vie, et souvent c'est après un moment, soit quelqu'un a dit une parole et puis tout d'un coup je me rends compte des pensées qui reviennent, je me dis, oh, quel chauffeur lorsqu'il s'est fait couper la route, normalement il est gentil et doux, mais quelqu'un est passé juste devant, il a évité l'accent de eux, et qu'est-ce qu'il a eu comme pensée pour cette personne-là, tout d'un coup. Elles sont pas très spirituelles ou angéliques. Hein. C'est à peine si il n'a pas envie de tuer le gars. Mais c'est des situations. Et tout d'un coup, on se dit, d'où j'ai sorti cette pensée? Moi, je pense jamais à tuer quelqu'un. Vous savez, mais ça arrive constamment dans notre vie. Si on fait attention, c'est tous les jours qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Et on a des réactions. Et vous savez, le seul moyen, c'est une indication qu'il y a quelque chose. Parce que ça ne vient pas de nulle part. Oui, mais c'est lui qui l'a. S'il ne l'avait pas fait, ce ne serait pas monté. Ah oui, mais bon, tu n'es pas responsable pour ce que lui, il a fait. Tu es responsable pour ce que tu as pensé. Et les pensées, c'est important. Hein. C'est ça que Pierre dit à Simon le sorcier. Hein, il dit, malheur à toi parce que tu as eu la pensée que tu pouvais acheter le don de Dieu avec de l'argent. Tu as eu la pensée, tu ne l'as pas fait. Tu l'as pensé, et bien malheur à toi. Alors, les enfants d'Israël, ils ont gardé le souvenir de ce serpent. Et l'événement est passé, tout a été bon, mais ils ont gardé ce serpent en souvenir. Et ils sont arrivés en Canaan, on n'en entend pas parler pendant longtemps, et tout d'un coup, eh bien, dans 2 Rois chapitre 18, tout d'un coup, on voit que ce serpent d'airain existe encore. 2 Rois chapitre 18, c'est Ézéchias, le roi, qui veut mettre de l'ordre dans le pays, parce qu'il y a les hauts lieux, et des petites statues par-ci, par-là, et le peuple n'est plus fidèle à Dieu, il est distrait, il y a le temple bien sûr, mais après il y a toutes les autres petites choses. Et Ézéchias, il dit, ça ne va pas ça, on va mettre de l'ordre et on va nettoyer. C'est ça qu'on a besoin de notre vie aussi, de temps en temps, de faire un nettoyage de tout ce qui est dans nos pensées, dans notre cœur, peut-être dans nos bibliothèques, dans nos, pas dans nos CD, dans nos amis peut-être même. Ézéchias, il veut mettre de l'ordre. Et qu'est-ce qu'il nous dit au chapitre 18? Alors, deux rois, chapitre 18, et au verset 4, voilà, il nous parle, il dit, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui et qui le précédèrent, il n'y en eut point qui fût semblable à lui. » Lui, il a dit, non, moi, je ne tolère pas, on nettoie. On enlève tout ce qui distrait de Dieu. Bien sûr qu'on le domine. Bien sûr qu'il n'y avait pas un là en Israël qui disait, moi je ne crois plus en l'Éternel. Non, non, il y croyait. Mais c'est tout le reste qui était avec. Et Ézéchias a dit, même ce serpent-là, eh ben, si vous êtes en train d'offrir des idoles, pas question, on le détruit. Voilà, même les souvenirs, même les symboles, tout, on détruit tout. Les yeux sur l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Et c'est là que nous pouvons vraiment avoir cette vie chrétienne, conquérante, victorieuse. C'est pas parce qu'on est fort, c'est parce que régulièrement je fais le ménage. C'est parce que régulièrement je mets de l'ordre. Si votre chambre personnelle est en ordre ce matin, c'est pas parce que vous l'avez fait il y a 3 mois, c'est parce que vous l'avez fait ce matin. C'est tout. Nos chambres à coucher, eh bien on les montre pas à tout le monde. Pourquoi? Mais bon, il y en a qui sont disciplinés, ils les ramassent tous les jours, mais il y en a, c'est pas tous les jours. C'est seulement quand maman l'oblige. Ou pour d'autres, c'est quand l'épouse le fait, pour d'autres, c'est quand... Mais notre vie, hein, j'espère qu'on s'occupe de notre vie chrétienne mieux qu'on s'occupe de sa chambre à coucher. C'est pas une question de dire, mais je le domine, c'est petit, c'est pas grand-chose. Oui, mais il y a des jours où tu es faible, et tu n'es pas assez fort pour dominer, et il prendra le dessus. Donc souvent dans notre marche avec le Seigneur, nous devons marquer un arrêt, réévaluer. C'est David qui disait, sonde-moi, ô Dieu, et vois s'il n'y a pas quelque chose qui ne convient pas dans mon cœur. Hein, on le chante, on aime bien changer ce cœur, mais il faut le faire. Réévaluer nos pensées et voir s'il n'y a pas eu des choses qui se sont emballé, puis il y a eu un vent qui est venu, qui a soufflé sur des braises de quelque chose, et puis ça a pris, et on se demande d'où ça vient. Oui, le feu, il ne brûle que s'il y a un combustible. Le vent, il ne crée pas le feu. Il n'attise que le feu qui existe. Et donc, nous devons faire très attention avec nos vies, régulièrement, évaluer nos vies, et voir si les choses... ne sont pas, les choses sont en ordre. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, souvenons-nous de nous ressaisir en prenant la parole et de rebâtir nos raisonnements sur les raisonnements de Dieu. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Elle est peut-être vieille. Hein, peut-être 2000 ans pour ces passages que nous avons lus de Moïse, 4000 ans, mais c'est toujours, on a le même problème, on n'est pas meilleur que ceux-là, et on est capable de faire ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Seigneur, donne-nous d'entretenir notre vie spirituelle, de rester près de la croix, de toujours rester à proximité de cette croix, afin de pouvoir tourner les yeux vers elle régulièrement et remettre de l'ordre. et réaffirmer notre confiance en toi. Donne-nous de ne pas tolérer des choses dans nos vies, mais d'être entièrement, 100% consacré à toi, autant que possible, autant que nous en pouvons en être conscients. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous propose un